Donc nous, nous recevons ce matin Chloé et Cerise de Singa. Donc Singa que les Promesses de l'Aube ont déjà présenté en 2017 et puis en 2019. Donc c'est chouette de pouvoir faire comme ça un suivi et puis de vous avoir de nouveau en studio pour connaître vos nouveaux projets, voir un peu comment la structure a évolué et voilà ce que vous y faites maintenant. Alors bonjour Chloé, bonjour Cerise, je vous laisse vous présenter vous-même.
Donc moi je m'appelle Chloé, je suis une des fondatrices de Singa, donc un projet qui a été créé, qui s'est mis en place à Bruxelles en 2017. Et au sein de l'association, je coordonne un peu l'évolution des différents projets et principalement tout ce qui a trait aux fonctions support au sein de l'association. Voilà pour moi.
Bonjour Lydia, je m'appelle Cerise. Moi j'ai rencontré Chloé il y a 3 ans, alors que je vagabondais à l'époque d'une mission humanitaire à l'autre. Et elle avait l'ambition de démarrer Singa à Bruxelles, donc on s'y est collé à deux. Et voilà, à l'heure actuelle, je suis vraiment plus dans l'opérationnel et donc avec l'objectif de coordonner et faire en sorte qu'il y ait l'huile dans les rouages des 3 différents projets de Singa.
Alors Singa, qu'est-ce que c'est ? Singa, créateur de liens. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Singa, déjà, ça veut dire le lien en lingala, une des langues parlées au Congo. Pourquoi ? Parce qu'on crée du lien entre des nouveaux arrivants et des Bruxellois de différentes manières, à travers des espaces de rencontres et surtout des passions communes, des cohabitations. Donc, c'est créer du lien en groupe, en binôme ou à la maison.
Et par rapport à Singa, donc Belgique, c'est d'abord un mouvement qui est beaucoup plus grand.
Beaucoup plus large,
en
oui.
fait, c'est ça.
Donc c'est un mouvement qui a été créé initialement à Paris en 2012 et qui s'est développé au fur et à mesure du temps dans différents pays du monde et principalement en Europe. Donc pour l'instant, on est présent dans 8 pays et dans une vingtaine de villes et qui est toujours issu de l'initiative d'un groupe de citoyens qui a la volonté de répliquer différents programmes, différents projets qui ont été développés dans d'autres pays avec toujours cet objectif de créer du lien entre des personnes qui viennent d'arriver dans un pays ou dans une ville et des membres de la ville d'accueil, de la société d'accueil, pour favoriser l'inclusion des nouveaux arrivants, leur permettre de développer leur réseau social, être plus facilement en contact, en tout cas, avec des personnes qui vivent dans le pays ou dans la ville.
Parce que c'est clair que c'est vraiment une des difficultés pour une personne qui est nouvelle arrivante dans une ville, c'est qu'en fait elle va avoir très très peu de liens avec la société d'accueil, donc avec des Bruxellois ici en l'occurrence, et le fait de ne pas avoir d'ancrage local, de ne pas avoir de tissu social, ça va avoir un impact déjà en termes de bonheur parce que les personnes se retrouvent assez isolées, mais ça va aussi faire qu'elles vont avoir moins d'opportunités de pratiquer le français, de trouver un logement, de trouver un emploi, de comprendre leur environnement, la culture et la ville dans laquelle ils évoluent. Et donc c'est vraiment cette création lien, elle est au service d'une meilleure inclusion dans la société bruxelloise.
Et donc qu'est-ce qu'on appelle nouveaux arrivants ?
Alors, donc un nouvel arrivant, c'est toute personne qui est, mettez des guillemets, nouvellement arrivée à Bruxelles. Il n'y a pas vraiment de critères, en fait. C'est toute personne qui se sent encore trop nouvelle à Bruxelles et qui a envie de se sentir plus inclus. Donc, on a des personnes qui sont à Bruxelles depuis 8 ans, mais qui, voilà, manquent de se sentir faire part de la société bruxelloise. On a des gens qui ont débarqué à Bruxelles il y a 2 mois ou même 2 jours. On travaille beaucoup avec des structures qui sont liées à l'asile, comme des centres faits d'asile, comme des centres Croix-Rouge, comme des bureaux d'accueil pour primo-arrivants. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de critères, c'est plus dans le sentiment de « je me sens nouveau, j'ai envie d'être plus inclus à Bruxelles ».
Et donc ça fonctionne avec des bénévoles qui s'investissent dans cette création de liens et dans la rencontre finalement.
Oui, tout à fait. L'existence enfin, Singa n'existe qu'à travers, évidemment, tous ses membres qui peuvent être tant des nouveaux arrivants que des Bruxellois. Des Bruxellois qui ont envie de rendre Bruxelles beaucoup plus inclusif, qui ont soit une passion qu'ils ont envie de partager et ils estiment qu'à travers cette passion, il y a moyen de créer du lien et rassembler des gens, qui ont envie d'aider plus spécifiquement un nouvel arrivant à venir à nos activités, à se sentir inclus dans Bruxelles. Et donc ça, c'est plus la création de liens en binôme ou qui ont une chambre disponible et qui se disent, ben voilà, en fait, moi, j'ai envie d'offrir un logement décent de manière temporaire à une personne qui a obtenu le statut de réfugié. On en parlera par la suite.
On rentrera un peu plus dans le détail
un peu plus spécifique. Mmh. Mais c'est dans tous les cas des citoyens qui oui, ont envie d'un Bruxelles plus inclusif, qui ont envie d'aller à la rencontre de personnes qui viennent d'arriver à Bruxelles, qui d'aller à la rencontre d'autres cultures, et envie parfois aussi de déconstruire les idées un peu préconçues qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de certaines cultures ou de voilà, c'est vraiment cette envie de partage, rencontre, et probablement qu'initialement c'est une envie de solidarité aussi.
Et donc, oui, on parle plus chez Singa de membres en termes généraux, parce qu'on se considère plus comme un groupe de gens composé de gens nouvellement arrivés à Bruxelles et de gens un peu plus bruxellois. Mais la notion de bénévole chez Singa, elle est assez importante parce qu'on essaye d'encourager vraiment que la structure soit portée par les membres, qu'ils soient bruxellois ou nouveaux arrivants. Donc, on essaye d'avoir vraiment 50% des gens qui s'investissent un peu plus dans l'organisation, dans la logistique, qui soient tant des nouveaux arrivants que des Bruxellois, pour être sûr que la structure soit le miroir de la société qu'on a envie d'être.
Parce que finalement, est-ce que des personnes nouvellement arrivées peuvent devenir elles-mêmes bénévoles
Justement,
imagine.
Oui, tout à fait. On a envie de déconstruire un peu cette idée des bénéficiaires et des bénévoles qu'on peut retrouver à juste titre dans certaines structures. Là, l'idée de Singa, c'est que chaque personne peut amène en tout cas quelque chose à la structure ou à la communauté en fonction de ses envies et en fonction de ce qu'elle recherche.
On n'est pas dans un contexte aidant-aider.
Non, voilà, exactement.
Et c'est assez important dans la rencontre, en fait, puisque finalement, on reste à quelque chose où les personnes sont vraiment à égalité, quoi, en fait.
On essaie de prôner au maximum l'horizontalité et d'offrir le cadre et les outils aux personnes qui, parfois, à toute personne qui a envie de partager sa passion, qui a envie d'aller à la rencontre de l'autre, peu importe d'où elle vient et qu'elle puisse se sentir à l'aise de le faire. On a plein d'activités qui sont développées par des nouveaux arrivants et c'est génial de pouvoir pousser aussi le bénévolat du côté des nouveaux arrivants. C'est leur donner la même place que des Bruxellois.
Et tu parles d'horizontalité. Pour nous, c'est vraiment un concept clé pour le succès de la mission de Singa. Un de nos objectifs, c'est aussi de déconstruire les stéréotypes, les préjugés que les Bruxellois peuvent avoir sur les nouveaux arrivants, cette espèce de masse migrante à laquelle on fait référence dans les médias, et de pouvoir considérer les nouveaux arrivants non plus par le spectre de leur statut, c'est un réfugié, c'est un sans-papier, c'est un ceci, c'est un cela, mais en fait c'est juste un être humain comme toi ou comme moi qui adore faire du dessin, qui adore faire des poiriers, qui a envie de rigoler, qui a aussi plein de compétences à partager, et donc si on arrive à percevoir les gens, à se percevoir les uns comme les autres, plutôt comme les égaux les uns des autres, on va plus facilement à la rencontre à un même niveau.
Et en trouvant les points communs, en fait, finalement, oui, plutôt que qu'aller sur les différences, quoi. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale, Fred, si ça te va ?
Mais tout à fait.
Mais oui, tout à fait. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans le détail des projets en fait de Singa, parce qu'il y en a pas mal et des nouveaux sûrement. Donc, on l'a dit, des évolutions. Et donc, voilà, vous allez nous raconter tout ça.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Morning Black Star, Mist Mist.
C'est parti.
It's the stretch my spirit's gifts. Let my worries mist. Let my worries mist. Let my worries mist. Let my worries.
On est de retour en studio, toujours avec Chloé Cerise de la belle Singa. Voilà, elles nous ont, si jamais vous nous rejoignez, hein, expliqué ce qu'était Singa. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez aussi aller sur le www.singa-belgium.org. Et donc, des activités, ça, il y en a beaucoup.
Énormément.
Ouais, c'est ça. Et trois groupes. Projets en tout cas qui ont un nom et du coup qui sont déclinés comme ça, c'est Bazar, Buddy et Calme. Alors je me souviens que vous étiez déjà venu parler de Calme, mais peut-être qu'on peut redire un petit mot dessus, je vous laisse expliquer.
Ouais, tout à fait. Donc Calme, c'est les initiales de Comme à la maison, qui est un projet qui a pour objectif de mettre en relation, de mettre en lien, comme d'habitude, des Bruxellois qui ont une chambre vide avec des personnes réfugiées. Donc là, c'est des personnes spécifiquement dans ce projet-là. On a dit que dans les autres projets, il n'y avait pas de conditions de statut, mais ici, c'est un projet à vocation, enfin, pour servir les personnes réfugiées. Donc on met en lien des Bruxellois qui ont une chambre vide avec une personne réfugiée qui est en recherche de logement et contre une contrepartie financière qui va entre 0 et 300 euros. Donc c'est l'occasion pour nous d'utiliser le logement, en fait, comme tremplin et comme prétexte pour créer ce lien. Donc c'est un prétexte pour créer du lien et c'est un tremplin dans le sens où la personne réfugiée, souvent, elle va rentrer dans cette chambre à un moment assez clé de son parcours migratoire, qui est le moment où elle vient d'obtenir son statut, ses papiers en Belgique. Et que donc, ben voilà, il y a toutes les portes qui s'ouvrent, il faut commencer une nouvelle vie. Et donc être en immersion linguistique, culturelle et sociale dans une famille bruxelloise, c'est une super manière de s'inclure dans la société. Et d'avoir un peu toutes les clés de compréhension pour le début de cette nouvelle vie. Donc pour l'instant, on a formé presque 20 cohabitations. On demande aux Bruxellois de mettre à disposition leur chambre pour une durée d'environ 6 mois. Ça peut être un petit peu moins parce que en fait, on va accompagner la personne tout le long de cette enfin on va accompagner les accueillis et l'accueilli et les accueillants tout le long de la cohabitation pour vérifier que ça se passe bien, et on va également mettre un bénévole qui va accompagner administrativement la personne accueillie dans ses démarches administratives, mais aussi dans sa recherche d'un logement pérenne. L'idée n'est pas nécessairement de mettre la chambre à disposition, de la louer pour une très très longue durée, mais plutôt pour 6 mois, le temps de trouver vraiment une situation plus stable pour la personne qui vient d'obtenir son statut de réfugié.
Et donc chaque fois sur ces 20 personnes, elles ont pu retrouver un logement ensuite pérenne
Toutes. À l'exception de une, mais que du coup, on a juste fait passer dans une autre cohabitation à l'issue de la fin de la période d'accueil. Donc oui, c'est vraiment notre objectif, c'est que les personnes ne se retrouvent pas à la rue à la sortie de la période d'accueil.
Quand on sait que le logement n'est pas du tout évident à c'est Bruxelles,
Oui. Mais on se bat vraiment pour, c'est un des objectifs du projet, et on n'aimerait vraiment pas mettre les accueillants, enfin les gens qui mettent à disposition une chambre, dans une situation où ils se sentent coincés parce qu'ils n'ont pas envie de laisser la chambre à disposition plus longtemps, ils ont besoin de la récupérer, et en même temps ils n'ont pas envie de mettre quelqu'un à la rue. Donc ça, on fait tout pour que ça n'arrive pas, et ça n'arrive pas.
Et donc c'est souvent des familles ou des personnes seules qui accueillent ?
Alors on a des profils très 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 variés. On n'a pas encore, si on commence à avoir deux profils types qui se dégagent un petit peu plus. Le premier, c'est celui des colocations, donc des profils, disons, entre 25 et 35 ans, qui ont une chambre libre dans leur coloc, qui auraient peut-être besoin d'un loyer de 400 euros pour ne pas perdre d'argent, mais qui sont prêts à la mettre à disposition à 300 euros et du coup se répartir la petite centaine d'euros de différence. Et le deuxième profil, c'est des couples de plus de 55 ans qui ont des enfants qui sont partis à l'université et qui ont une chambre libre et qui seraient ravis de rendre service.
Oui, et du coup, donc une compagnie aussi assez intéressante, évidemment, dans l'échange et dans ce qui s'y passe. J'imagine que des amitiés se créent.
Absolument. C'est vraiment l'idée de... Nous, on ne se considère pas encore comme un acteur de logement. On se considère comme un acteur de création de liens. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire des matchs aussi qui ont du sens et de mettre en relation des gens dont on sent que il y aurait quand même certainement un petit fit pour qu'il y ait des liens qui se créent. Tout à fait.
Et ce qui est très chouette, c'est qu'il y a des accueillants qui, du coup, à l'issue de la fin de cette période-là, ont proposé de réaccueillir quelqu'un quelques mois plus tard. Donc, c'est qu'a priori, l'expérience s'est bien passée.
Oui, et on a des cohabitations qui se pérennisent, donc, oui. Où des gens se disent, en fait, on a décidé juste de vivre ensemble, et plus de manière temporaire, et plus avec Singa. En fait, ça se passe super bien, donc on continue notre vie de notre côté. Ça, on adore.
Ouais, forcément, quand ça se passe comme ça, il y a une vraie pérennité de lien humain. Quoi,
tout à fait.
Ouais, c'est ça. Et au niveau, donc, ça c'est le projet Calme, on a dit.
Ouais.
C'est rien.
J'allais Buddy, demander... on en a parlé, j'ai l'impression aussi.
J'allais te demander ton mot de passe. On va pas faire comme
pardon.
Ça.
On rappelle.
Oui. Donc il y a Calme et puis il y a Bazar. Qui est là depuis longtemps, en fait.
En fait, ce sont plutôt donc les activités Singa qui est le premier projet en fait qu'on a développé. Donc les activités Singa, c'est très simple. Ce sont des membres de l'association qui ont envie de partager leur passion, leurs compétences et qui sont des activités qui sont développées pour des membres de l'association. Donc on peut avoir du yoga, du foot, du dessin, de la peinture, peu importe le prétexte finalement pour créer du lien. Donc ce qu'on appelle les connecteurs. Donc ce sont les personnes qui développent des activités, sont encadrées et sont formées évidemment par Singa. On met à disposition du matériel, une salle si besoin. Et puis la personne propose son activité de manière régulière aux différents membres de l'association ou à toute personne en fait qui a envie de participer à l'activité. Ce sont des activités qui sont gratuites. Et donc on a d'une part ces activités qui sont vraiment le cœur de Singa. C'est là que se passe toute la création de liens, tout le partage, toute la rencontre. Et on a une activité qui s'est développée qui s'appelle effectivement le bazar, qui a été développée quand même quelques mois après la création de Singa, parce qu'on s'est rendu compte que parfois les gens ont juste envie de se retrouver de manière régulière autour d'un café, d'une animation, pas spécialement d'une activité très spécifique, mais juste avoir un espace de rencontre, un espace de rencontre, un peu comme un café, comme une grande place
de marché.
Voilà, comme un peu un QG. Et donc les bazars, ça se fait effectivement trois fois par semaine sur Bruxelles, dans des lieux fixes, à heure fixe. Chacun peut y venir avec l'envie soit de jouer à un jeu de société, de papoter, ou proposer une animation ce jour-là ou ce soir-là. C'est vraiment super libre. Et donc, c'est devenu un peu l'endroit de rencontre de la communauté, comme je l'ai dit. Et là aussi, où on ressent le plus l'esprit Singa. C'est vrai qu'il y a à chaque fois une bonne trentaine de personnes qui s'y retrouvent, pardon, contrairement aux activités où ce sont parfois des plus petits groupes et des personnes qui sont passionnées par une chose bien spécifique. Et donc, voilà pour les bazars.
Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit Singa ?
Ah, l'esprit Singa.
On peut dire quelques mots-clés. Ouais, on peut inspirer les auditeurs.
L'esprit Singa, c'est la rencontre, c'est de l'énergie, c'est du dynamisme, c'est
l'accueil,
de
la chaleur.
Ouais. Une envie de rencontre, c'est des sourires, quoi. C'est
du bon esprit, mais ouais. À fond.
Les gens sont là, pas spécialement pour une activité, ils sont là parce qu'ils ont envie d'aller à la rencontre d'autres personnes et tout le monde, et peu importe qui on est, il n'y a parfois même pas de présentation quand les personnes se retrouvent à une activité. Elles sont là, même pas spécialement pour faire de la cuisine ou du yoga, mais juste pour être dans une espèce de petit cocon au sein duquel elles se sentent, au sein duquel il y a beaucoup de bienveillance et de l'énergie très positive en tout cas.
Petite pause musicale de nouveau, Fred.
Oui, on peut. Là.
Qu'est-ce que... Vas-y.
Bah, ce sera Amar 808.
Allez. Et voilà, de retour, les 8h39 dans les promesses de l'aube, ce lundi matin. Bon réveil à ceux qui se lèvent maintenant. Et nous sommes toujours avec Chloé et Cerise de Les Belsinga. On a parlé des différentes activités qui sont menées au sein de la structure. Et il nous en reste un, c'est le projet Buddy. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce qu'un buddy ? Un buddy, c'est un ami, un pote en anglais. Donc c'est un projet qui a pour objectif de former des binômes composés de un local, un bruxellois, et un nouvel arrivant, qui vont se rencontrer régulièrement. Donc, les buddies ont une mission, enfin, quatre missions, en fait. Une mission, c'est de se rencontrer quatre fois en deux mois. Donc ça, c'est leur objectif. Mais évidemment, notre objectif à nous derrière, c'est que les gens créent du lien et se voient régulièrement. Auparavant, on demandait aux gens de s'engager pour 6 mois. Et en fait, maintenant, en leur demandant un engagement, une mission beaucoup plus faible, on remarque que le taux de gens qui continuent à se voir, parce qu'il y a moins de contraintes et c'est beaucoup plus naturel, augmente. En fait, on a 75% des gens qui continuent à se voir après. Donc, jusqu'à présent, on a formé, je pense, 350 binômes. Et c'est un vrai plaisir de voir ces binômes évoluer. C'est aussi une très, très bonne manière on l'utilise un petit peu comme un outil d'inclusion, en fait. On remarque qu'il y a des profils qui sont un petit peu intimidés d'arriver dans les activités de groupe ou qui ne sont pas nécessairement à l'aise dans des dynamiques plus collectives, qui sont un petit peu plus timides, qui, en fait, ne sont pas à l'aise dans leur déplacement à Bruxelles, dans le fait de bouger d'un quartier à l'autre, de prendre les transports en commun, etc. Et en fait, le fait de former des binômes permet vraiment de surmonter toutes ces difficultés, parce qu'en arrivant en binôme à une activité, c'est un peu comme quand tu vas à un barbecue toute seule. Si t'as pas vraiment de pilier, c'est plus compliqué. Si jamais il y a une personne que tu connais un peu, en fait, tu peux aller la coller dès que tu sais plus très bien à qui parler. Donc en fait, le système de binôme permet vraiment d'aider les gens qui sont moins à l'aise à s'intégrer dans une dynamique plus collective et du coup à aller rencontrer des groupes de gens.
Et comment les binômes sont-ils formés ?
Au hasard. Non, c'est vrai, avant, on passait beaucoup de temps à faire des suppositions sur qui allait bien s'entendre avec un tel. Et en fait, on a réalisé que peu importe l'énergie qu'on mettait dans ces matchings, l'humain, enfin la magie de l'amitié, c'est bien plus...
C'est bien plus subtil que juste d'avoir une passion commune.
Oui, ouais. Je crois qu'il y a du chimique. Enfin, il y a plein de choses que nous, en tant qu'humains, on peut pas calculer, on peut pas prévoir.
Contrôler, évidemment.
Quoi. Non, bien sûr. Oui. Et donc maintenant, on match les gens sur la base de critères très, 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 très objectifs, comme les horaires auxquels ils sont disponibles, le fait d'avoir quand même une langue en commun, quelle qu'elle soit, le fait de pas habiter dans des périmètres géographiques trop, trop éloignés, pour faciliter la rencontre. Mais après, l'amitié, elle se fait de manière plus naturelle, quoi. Donc, oui.
Et comment on vient vers vous et comment on participe en fait à vos projets, qu'on soit nouvel arrivant ou qu'on ait envie en fait de donner de son temps et...
Alors, il y a deux manières. Soit on se dit d'abord, j'ai envie d'aller tester une petite activité, tester ce fameux esprit Singa dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il suffit d'aller voir notre agenda sur le site internet www.singa-belgium.org. Et donc, dans l'agenda, on peut y retrouver toutes les activités qu'on propose. Il suffit de s'inscrire et puis de venir à une activité. Mais si on veut une information beaucoup plus complète sur les différents programmes, les différentes possibilités d'engagement chez Singa, de comprendre aussi d'où vient le mouvement, une information plus complète. Il suffit de s'inscrire à une séance d'information. Elles ont lieu tous les 15 jours en vidéoconférence pour l'instant. Donc, on peut rester chez soi devant son PC, surtout par ce temps, c'est assez pratique. Et donc là, ça nous permet vraiment de donner, d'aller beaucoup plus en profondeur dans les projets qui sont développés, les manières de pouvoir y accéder, etc. Et ça, c'est plus à destination de personnes qui ont un niveau de français, font un bon niveau de français. Si la personne se sent un petit peu moins à l'aise avec le français, alors on organise des permanences au bureau et donc la personne peut venir individuellement nous retrouver et avoir le même type d'informations, mais individuellement. Oui, je t'en prie.
Pardon. Et pour ceux qui sont plus sur les réseaux sociaux, on a également une page Facebook Singa Belgium et un compte Instagram Singa Belgium où on diffuse aussi notre agenda de manière hebdomadaire, les dernières nouvelles. Et donc ça vous permet aussi de, si jamais vous oubliez d'aller sur notre site internet chaque semaine pour voir l'agenda, et que l'agenda vienne à vous.
Et vous me disiez comme ça hors antenne que surtout en fait en termes de besoins, vous aviez surtout vous recherchez surtout des gens pour le projet Cannes, ou plutôt pour le projet logement en fait, puisque tu disais tout à l'heure Cerise, déjà 350 binômes dans le projet Betty, c'est énorme. Donc on voit que voilà, déjà tout ça tourne bien. Et donc Calme, besoin de chambres en fait à Bruxelles et de gens motivés à accueillir.
Oui, c'est vrai, 350 binômes, 12 000 participants à nos activités. Mais du coup, ce qui nous manque, là, c'est un petit coup de boost sur le nombre de gens qui sont prêts à se lancer dans cette aventure interculturelle d'une cohabitation interculturelle au quotidien, qui sont prêts à mettre une chambre libre qu'ils auraient chez eux à disposition d'une personne réfugiée pour une période de 6 mois, mais ça peut un petit peu varier, contre un loyer modéré de maximum 300 euros.
Est-ce qu'il y a des critères en fait spécifiques en termes de chambre
La chambre doit être fermée, donc on ne parle pas ici de canapé. On veut que la personne hébergée, accueillie, puisse vraiment avoir son espace, son intimité. Donc il s'agit juste d'avoir une chambre, d'être en région bruxelloise pour des questions administratives. La personne que vous accueillez ne se domiciliera pas chez vous, mais elle se domiciliera au CPS de votre commune pour éviter tout ennui administratif, fiscal, etc. Donc ça doit être en région bruxelloise, ça doit être une chambre fermée et il faut que les gens soient sympas. Aussi.
Oui, c'est mieux quand même.
C'est plus facile. Et ben, en tout cas.
Donc voilà, si vous êtes des gens pas sympas, n'appelez pas. C'est ça. Et quoi alors ? On a une chambre de disponible, on vous appelle.
On vous appelle.
J'imagine que vous allez peut-être visiter avec la personne avant aussi, voir si elle se sent bien. Tout à fait.
Donc on va faire une première rencontre en fait entre. Une personne qui a une chambre libre et une personne qui cherche une chambre. Et ils vont se rencontrer dans un cadre neutre. À la suite de cette rencontre seulement, ils décident de s'ils ont envie ou pas de se lancer dans cette cohabitation. Parfois, ça arrive, les gens en fait, ne se sentent pas trop et donc ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans et il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment laissé au choix de chacun de commencer la cohabitation. Et ce qu'on propose également, c'est un atelier préparatoire à la cohabitation. C'est une petite matinée où on est avec quelques personnes qui s'apprêtent à accueillir et des membres de l'équipe Singa. Et on se prépare en fait aux difficultés qui peuvent...
Se passer. Ouais. Qui peuvent apparaître durant la cohabitation. Ou même, c'est un moment aussi où les personnes peuvent poser toutes leurs questions librement, peut-être partager leurs craintes, leurs peurs, et comme ça, nous, on peut aussi rassurer tout le monde.
Ce qui est hyper important, parce
que tout à fait.
D'un coup, en fait, on se retrouve à vivre avec quelqu'un, et donc forcément, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on sait que partout, la cohabitation ne se fait pas nécessairement facilement. Et ça reste de l'humain, là encore.
Surtout si on n'a jamais vécu en colocation.
Tout à fait. Ouais. Et puis je pense que l'espace aussi disponible en fait joue aussi beaucoup sur les cohabitations en général.
Mais on essaye vraiment donc d'accompagner ces cohabitations, d'être là dans les phases préparatoires et tout le long pour que ça se passe le mieux possible. C'est vraiment notre objectif.
Et que de projets en tout cas qui ont avancé. Et quand on entend aussi le nombre de participants, on voit que ça a pris pas mal d'ampleur.
Venez nombreux.
Alors, merci en tout cas à Chloé Cerise. On rappelle donc www.singa-belgium.org. C'est ça.
Exactement.
Une adresse mail aussi peut-être, ou directement sur le site
ou
contact.
Info@singa-belgium.org.
Et ben super.
Ça marche aussi.